lui rendit le bidon.
Ça va, enfin, oui, ça va, dès que je ne suis plus tout seul.
Comment tu t'appelles? Demanda Jean, qui depuis longtemps maintenant, et sauf exception, ne prenait plus la peine de connaître ceux des jeunes classes. Car même si l'état-major faisait tout pour cacher les chiffres, tous les vétérans, les anciens, savaient depuis longtemps que près de 80% des bleus ne revenaient pas de leur premier assaut, leur baptême du feu. Il était donc inutile de savoir leur nom.
Louis Vergne.
Et t'es d'où?
De Saint-Libéral-sur-Diamont.
Connais pas ce bled. C'est où? En Corrèze?
Ben oui, pas loin de Saint-Robert et de Perpézac-le-Blanc.
Perpézac?
Ah oui, je connais.
Enfin, je n'y ai jamais été. C'est loin de chez nous. Mais on m'en a parlé,
Et j'irai un jour, sûrement,
murmura Jean, en espérant que son chuchotement ne trahirait pas son émotion.
Et tu fais quoi là-bas?
Paysan.
Comme moi. Et qui s'occupe de la ferme? Ton père?
Non, ma mère et mon petit frère. Il a 15 ans. Il est encore un peu tranquille, hein? Dis, ils vont quand même pas tout de suite appeler la classe 21, dis.
Et ton père?
Il était de la 93. Ils l'ont rappelé d'abord dans la territoriale et puis l'année dernière, comme tout le monde, il a rejoint l'active. Il a disparu en avril, du côté de Douaumont. Je sais pas trop où. Et moi, j'ai la trouille de faire pareil.
Je comprends, murmura Jean. Tu veux un coup de gnôle de plus avant que je retourne là-bas?
Non, elle m'a foutu le feu à l'estomac, parce qu'avec tout le pinard que j'ai bu avant.
Oui, lui aussi est une belle saloperie. Allez, petit, cramponne-toi, il faut tenir. On a la relève dans 1 heure. Et ne fais surtout pas attention au bruit qu'il y a devant. Je t'assure que ce sont les rats.
Qu'est-ce qu'ils font?
La sarabande! Ils s'amusent, eux!
Dit Jean, en rejoignant son poste. Je n'allais quand même pas lui dire que ces saloperies de bestiaux sont sûrement en train de ronger quelques cadavres abandonnés dans le glacis depuis la dernière attaque. Il l'apprendra bien assez tôt. Et pas lui dire non plus que s'ils s'arrêtent de faire tout ce boucan, c'est qu'ils auront peur et détaleront. Je saurai alors que quelqu'un approche d'ici, en quête d'un mauvais coup. Mercredi 20 décembre 1916, ferme des Combettes, 23 h.
Encore 1 heure à veiller et je pourrai aller me coucher,
pensa Marthe en entendant la pendule égrener 11 coups avec 5 minutes d'avance. 1 heure pendant laquelle elle allait poursuivre la confection du gros tricot qu'elle voulait expédier le plus tôt possible à Jean. Car dans ses lettres, toujours aussi laconiques, il se plaignait beaucoup du froid. Aussi, après 2 paires de chaussettes, une de gants et un passe-montagne envoyés au cours du dernier mois, avait-elle hâte de finir ce pull monté en grosses mailles serrées, de la laine fournie par les brebis de la ferme. Il allait être très chaud, et elle savait qu'en le portant, Jean bénéficierait tout à la fois de son confort et apprécierait aussi son odeur un peu forte de laine écrue. Elle lui rappellerait la ferme et les temps de paix qui semblaient maintenant si lointains. Enfin, elle en était certaine, il n'oublierait jamais avec quel amour ce tricot avait été fait. J'aurais fini la première manche ce soir, pensa-t-elle en présentant son travail à l'ensemble déjà bâti. Elle estima l'allure qu'aurait bientôt le pullover, fut satisfaite et reprit son travail. Grâce à lui et à l'attention qu'il demandait, elle espérait cantonner sa pensée dans des évocations maintes fois rebattues, mais sans conséquence pour son moral, et museler ainsi l'angoisse latente qui la guettait. Alors, bien qu'elle n'en conservât pas un agréable souvenir, car les journées de battage les avaient poussées, elle et ses voisines, au sommet de l'épuisement, lui revenait ce réconfortant sentiment d'avoir là aussi, et déjà, agi comme il le fallait. Dès le premier jour de battage chez les Bordes, et alors que l'entrepreneur, le père de Marguerite Descendiers, habitué à travailler avec une troupe d'hommes solides, semblait dépassé par les événements, Marthe intervint.
Décelant le flottement de la situation, elle comprit qu'elle devait réagir avant que le découragement ne s'installe.
Hé, dites, on ne va pas attendre jusqu'à ce soir que le travail se fasse tout seul,
lança-t-elle à ses voisines, qu'elle devinait hésitante quant au poste à tenir.
Ben oui,
dit Germaine Borde.
Mais comment on fait?
Il faut d'abord demander à Monsieur Tessandier. C'est sa machine, alors.
Oh, moi, c'est simple,
dit le vieil homme.
Ma place est là, à m'occuper de la loco et à la garder sous pression. Il faut aussi que je sois autour de la batteuse pour tout vérifier, résiner les courroies et surveiller les grilles du crible. Quant à mon commis, je le mets au batteur. Il sait faire et il n'y laissera pas les mains. Mais pour le reste, mes petites, débrouillez-vous, comme vous l'entendez.
Tu as une idée?
Demanda Martha Léonie.
Non, vas-y toi, on verra bien si ça va.
Bon,
décida Marthe, après quelques instants de réflexion.
Si ça vous va, on met Germaine et son père au paillet pour lancer les gerbes. Toi, Marguerite, tu grimpes là-haut sur la batteuse pour les délier et les pousser vers le commis. Quel est son prénom déjà?
Alfred,
dit Tessandier.
Mais ça sert à rien de l'appeler, il est plus sourd qu'une enclume et aussi muet qu'une souche.
Bien, poursuivit Marthe. Toi, Français, dans ton état, tu vas rester à la trémie. Juste pour surveiller le remplissage des sacs et ouvrir ou fermer les volets. S'il veut bien, on va mettre ton père pour rentrer la paille. Et puis, Léonie, Germaine, Françoise et moi, on montera les sacs au grenier. Mais toi, Francette, veille à ce qu'il ne soit qu'au tiers plein, pas plus. Car, sûr de sûr, jamais on ne les portera, même s'ils ne font qu'un demi-quintal. Voilà, père Tessandier, si ça vous va, on peut attaquer.
Ça me va, ma petite. Mais si tu veux mon avis, vous les jeunes, pensez à changer de temps en temps de place, parce que ça va être dur, et qu'on n'est qu'au premier jour.
Vous avez raison, on changera. Enfin, pas Francette, il ne faudrait pas qu'elle nous fasse son petit avant l'heure.
Le battage commença, plein de poussière, de bruit, et très vite éreintant pour tous, car beaucoup de gerbes étaient très lourdes, liées pour être maniées par des hommes. Quant aux sacs de blé qui, remplis jusqu'à la gueule, eussent pesé près de 100 kilos, poids qui, toutes les femmes s'en souvenaient, ne semblaient pas écraser naguère leurs frères ou leurs maris, ils devenaient, même au tiers plein, des charges terrifiantes sur leurs épaules. C'est en suant et en soufflant, ruisselantes de transpiration et peu soucieuses de leur corsage dégrafé et de leurs jupes relevées qui dévoilaient parfois leurs cuisses, blanches comme du lait, qu'elles escaladèrent, toutes titubantes, les barreaux de l'échelle dressés jusqu'au grenier. Toutes comprirent alors, bien avant midi, pourquoi les autres années les hommes demandaient à boire, et si souvent, dès que le soleil commençait à taper. Lèvres et bouches comme de l'amadou, gorges asséchées par la poussière, assoiffées comme jamais, elles se surprirent à leur tour à attendre, et parfois même à réclamer avec impatience, le verre de petit vin gris rafraîchi au fond du puits que leur servait la vieille mère Borde. Et elles burent, cul sec. De même, lorsque vers 14 heures, battage du jour enfin terminé, elles passèrent à table, c'est avec un appétit, une voracité d'homme, qu'elles firent honneur au repas préparé par les grands-mères de Léonie et de Germaine Borde. Et aucune, solide Chabrolle fait, ne chipota le jambon de ferme, le poulet au scorsonnerre, le plantureux pot-au-feu, la salade aux œufs durs, les fromages blancs et les tartes à la confiture. Et presque toutes acceptèrent le petit coup de prune dans le verre de café à la chicorée. Malgré cela, et le contentement d'avoir au mieux maîtrisé une situation imprévue, toutes appréhendèrent les semaines et peut-être, hélas, les mois à venir. Car si Berlin devait être prise pour Noël, ce qui était, paraît-il, presque certain, décembre était encore loin, et bien longs les jours qui l'en séparaient. Chacune d'elles, sans en parler, pressentait aussi que leur fatigue, leur courbature, leur douleur dans le dos et les reins, les élancements de leurs muscles en feu et tout leur épuisement seraient quand même insuffisants pour que, dès la nuit venue, ne surgissent pas l'angoisse et la douleur générées par l'absence de leurs hommes. Il n'y avait pourtant que 56 jours qu'ils étaient partis. Mais déjà, un mois plus tôt, le 31 août, un jeune de Coste Blanc, un de la classe 12, était tombé, une balle en plein front, du côté de Vonck. C'était un bourg situé, on ne savait bien où, sur l'Aisne, d'après le maire, donc à l'est.